Tu t'ennuies ?
Tu sais pas quoi faire.
T'as qu'à écouter les super chroniques des bibliothécaires
de Bourg-en-Bresse.
C'est un mercredi par mois
à 7h30, 8h30 et 12h30.
Sur Radio B, bien sûr.
Bon, tu nous as ratés ?
Pense au podcast. Oui. Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous revoilà vos bibliothécaires préférés pour des coups de cœur encore mieux que les autres d'avant. Aujourd'hui, je suis avec...
Merci.
Aurélie.
Oui, pour les autres d'avant.
Sophie. Ah, j'en étais aussi dans les autres d'avant, je m'auto-mutile. Donc, Aurélie, Sophie et Anne aujourd'hui, et moi-même d'ailleurs, qui allons vous présenter des choses. Aurélie et Sophie sur la jeunesse. Aurélie qui va nous présenter un album jeunesse, un truc,
un
on ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est de la jeunesse,
un
ovni. Un
voilà.
Ovni. Sophie qui est sur un roman ado. Anne qui est sur de la chanson française.
Ouais. Oh.
Et moi qui vais vous présenter un drame, un film encore. Eh bien, Aurélie,
c'est parti. Alors, donc, je vous présente un petit ovni. Je vais vous expliquer. Quand j'étais petite, je me rappelle avoir eu un guide tout de rose et de paillettes, comme Antonin aujourd'hui d'ailleurs. Qui devait m'apprendre à devenir une vraie princesse. Alors, ce guide apprenait comment s'habiller, comment se tenir en société, comment trouver un prince. Mais ceci dit, ce guide comprenait une bonne dose d'humour et ne décrivait pas les princesses comme étant uniquement de gentilles filles soumises, mais il faisait la part belle à toutes les personnalités. Comme quoi, tout le monde pouvait être une princesse. Mais aujourd'hui, être une princesse, c'est saut année 2000. Regardez la Reine des Neiges de Disney. Ok, c'est une princesse, mais elle a surtout des pouvoirs magiques, et c'est ça qui la rend badass. Et elle ne trouve pas de prince charmant gnangnan avec qui elle aurait vécu heureuse et eu un tas d'enfants. Bref, être riche, belle et mariée, ce n'est plus une fin en soi. Et donc, le guide que je vous présente aujourd'hui n'apprend pas à devenir une princesse, mais une sorcière. Écrit par Myriam Daman et illustré par Maureen Poignonec, il s'intitule sobrement « Tout pour devenir une sorcière ». Et le sous-titre est parlant « Petit guide à l'usage des princesses qui s'ennuient ». Et oui, on a fait beaucoup d'efforts pour devenir des princesses à qui on a envie de baiser les pieds. Mais il faut bien l'avouer, on est lassé. Être une sorcière, c'est quand même davantage synonyme de liberté. D'ailleurs, une sorcière, qu'est-ce que c'est ? Selon ce guide, une sorcière est une ancienne princesse qui a décidé de jeter la bonne éducation aux oubliettes. Elle rêve d'être méchante et de jeter des sorts qui la font bien rigoler. Mais être une sorcière, ce n'est pas un travail de tout repos. Vous voulez en être ?
Oui !
Ah oui !
Bah ouais.
Suivez le guide ! Tout d'abord, on choisit sa nouvelle identité. Moi, par exemple, j'ai décidé qu'il faudrait désormais m'appeler Aurélie Pourrie. C'est court, c'est efficace. Une fois le nom choisi, il faut trouver un toit, aussi sinistre que possible, et un animal de compagnie peu ragoûtant. À vous crapauds, rats, escargots, et autres dragons si vous avez de la chance. Le décor est installé, place à la magie. Et c'est comme tout, ça s'apprend. Cours en ligne et forums d'échange, professeurs particuliers, écoles de sorcellerie, il existe de nombreuses façons d'apprendre à jeter des sorts. Mais le plus important reste la diction. Afin de ne pas faire une erreur. Mes collègues ici présents vont donc se livrer à ce petit exercice simple et répéter après moi un vire-langue. Attention, vous êtes prêts ?
Oui.
Un dragon gradé dégrade un gradé dragon. À vous.
Un dragon gradé dégrade un gradé dragon.
Ah, je me suis transformé en grenouille.
Et ben voilà. Si c'était un sort pour faire obéir un dragon, je crois que ce dernier les aurait déjà réduits en bouillie. Moralité. Entraînez-vous. Mais la magie, ça ne suffit pas. Une bonne sorcière a besoin des bons accessoires. Boule de cristal, chaudron, balai. Mais comme pour tout, attention aux arnaques sur lebonsort.com. Allez, on récapitule. On a notre nouvelle identité, notre animal, notre taudis, nos accessoires, et on connaît de bons sortilèges. Il ne reste plus qu'à choisir sa première victime. Et devinez qui est le plus souvent choisi par les sorcières en herbe ? Je vous le donne en mille, il s'agit de la princesse. La première victime est la plus importante, car c'est ainsi qu'on assoit sa réputation de sorcière. Alors choisissez-la bien, et jetez-lui un sort qui restera dans les mémoires. Mais cependant, les sorcières n'échappent pas à la réalité. Pour manger, il faut payer. Et les sorcières peuvent gagner leur vie en vendant des sortilèges et des potions. J'ai ainsi créé un slogan publicitaire. Avec Aurélie Pourri, les sortilèges sont garantis. Une potion offerte pour tout sortilège acheté dans la limite des fioles disponibles. Bref, être une sorcière, c'est du travail. Mais la conclusion de ce livre est limpide. Être une sorcière, c'est être libre de choisir sa vie. Ce joli guide est publié chez Talent Haut, une maison d'édition que je n'en finis plus de recommander tant elle sort les livres pour enfants des sentiers battus et leur donne de véritables sujets de réflexion sur les travers de la société. Et ce, toujours avec humour. Alors, si à l'approche de Noël, vous ne savez pas quoi offrir à votre fille, votre nièce, votre cousine, votre copine, votre voisine, et j'en passe, n'hésitez plus. En attendant, vous pourrez retrouver tout pour devenir une sorcière à la médiathèque Césaire. Et je laisse la parole à Sophie et à un roman ado.
Chers auditeurs de Radio B, chers collègues, montez avec moi dans la DeLorean, serrez-vous et attachez vos ceintures, car je vous emmène visiter l'un des futurs possibles. Nous voici en Mid-Amérique, à l'âge post-mortem, au beau milieu du troisième millénaire. L'humanité a fait un bond en avant grâce au progrès de la médecine, promettant à tous santé et jeunesse, garantissant ainsi aux hommes l'immortalité. Travailler est devenu inutile, toutes nos demandes sont exaucées, les nanites qui circulent dans notre sang régulent la douleur, l'humeur. La criminalité a disparu et nos dirigeants ont été remplacés par le Thunderhead, une intelligence artificielle quasi omnipotente et omnisciente. Cependant, avec la disparition de la mort, la vie a pris une saveur différente, plus fade. Les grandes passions se sont éteintes, étouffées par la monotonie d'une existence sans surprise. Alors, vous qui voyagez avec moi, ne voyez-vous pas se profiler l'ombre d'un problème quant à une planète dont les habitants seraient immortels et libres de se reproduire à l'infini ?
La surpopulation.
Exactement, la surpopulation. Et c'est pourquoi dans ce futur, les faucheurs existent. Destinés à réguler la population via le glanage, ils sont choisis pour leur haute valeur morale, leur éthique et leur sagesse. Leurs commandements sont « tu tueras », »,« tu tueras sans aucun parti pris, sans sectarisme et sans préméditation », »,« tu accorderas une année d'immunité à la famille de ceux qui ont accepté ta venue », »,« tu tueras la famille de ceux qui t'ont résisté ». Hélas, la communauté va se retrouver gangrénée par une faction de faucheurs corrompus au goût prononcé pour le meurtre. C'est dans cet univers que Citra et Rohan deviennent apprentis faucheurs rivaux. Et bien qu'ils aient cette vocation en horreur, ils vont vite comprendre qu'elle est nécessaire à la société. Cependant, la compétition entre les deux adolescents va prendre une funeste tournure lorsqu'ils apprendront que le vainqueur devra glaner la vie du perdant. Bon, qu'est-ce que vous en dites ? Ce futur vous plaît ? Je vous laisse là et je rentre seule en DeLorean ?
Oh non !
Oh non !
Même pas toi, non. Aurélie, je te laisse pas ?
Oh non ! Oh. Non,
bon, non. Allez, c'est bon, montez. Retour en 2019. Marty, mets les gaz ! Bien. Peut-être que ce futur ne vous a pas semblé des plus plaisants, mais Nels Schusterman l'a imaginé. L'auteur a fini tout récemment cette trilogie pour ados nommée La Faucheuse, qui est publiée aux éditions Robert Laffont et que vous retrouverez dans vos médiathèques. Voire même un jour au cinéma, car la saga est en cours d'adaptation par les studios Universal. Personnellement, j'ai beaucoup aimé la trilogie, car j'ai trouvé cette dystopie passionnante. L'ennui provoqué par l'immortalité, la corruption d'une communauté réputée infaillible, les complots et les rebondissements que peut engendrer la résurrection. Et j'ai particulièrement été émue par l'intelligence artificielle profondément bienveillante et humaine. De plus, bien que le sujet principal soit difficile, je vous rappelle que ce n'est rien de moins que la mort, la violence des faucheurs n'est jamais glorifiée. Peut-être trouverais-je un seul point négatif concernant la série. Il se situe dans la relation entre les deux personnages principaux, Citra et Rohan. L'auteur leur prête des sentiments amoureux qui ne seront pas vraiment développés et les romantiques resteront sur leur faim. Néanmoins, la saga se présente comme une œuvre de science-fiction et cet appétit-là, croyez-moi, sera largement satisfait. C'était Sophie, sa DeLorean, Nels Schusterman avec la saga La Faucheuse. Et je vous laisse maintenant dans le drame avec Antonin.
Oui, aujourd'hui, je vais vous parler d'un très beau film, mais une fois n'est pas coutume pour les bons films, vraiment pas très drôle. En effet, My Beautiful Boy de Felix von Groningen ne vous laissera pas de marbre. Telle une marque de fabrique de son auteur, cette œuvre est dure, mais pas gratuite, à la fois touchante et solaire, dans laquelle, malgré la lourdeur du sujet, l'espoir est toujours là, caché en embuscade. Tiré d'une histoire vraie, nous suivons le parcours d'un père et d'un fils, et de leur relation face à la dégringolade du fils dans la drogue. Ce film est une réécriture des deux autobiographies de nos personnages. Felix van Groningen traverse l'Atlantique, pour nous proposer ce film avec un casting hollywoodien, très différent de ses précédentes productions. On est très loin de son premier film, La merditude des choses, où l'on se retrouvait perdu dans l'arrière-pays flamand avec des personnages encore plus perdus. Mais néanmoins, son fil rouge demeure, immerger ses personnages dans une situation désespérément tragique. Bon, oui, ce n'est pas un choix par hasard. Je suis un grand fan de cet auteur et notamment du magnifique Alabama Monroe dont je ne parlerai jamais assez. Si les moments de tendresse d'un Alabama Monroe se retrouvaient dans des flashbacks d'un passé radieux, tristement révolu, ici, My Beautiful Boy est résolument tourné vers le futur. Un futur difficile, mais plein d'espoir pour nos personnages malmenés. Il est dans ce sens le moins désespérant de ces films, car la porte reste ouverte pour un lendemain meilleur. Ainsi, ce film commence plutôt avec des paillettes. Le père est un journaliste éminent du New York Times, père aimant de trois têtes blondes rigolardes. Notre second héros, l'aîné de la fratrie, que nous suivons par flashback tout au long de sa jeunesse jusqu'à sa vingtaine, est un garçon beau, brillant, à l'esprit vif et à l'avenir tout tracé. Rien ne semble devoir assombrir le tableau. Mais le jeune homme se découvre une part d'ombre, une sorte de vide profond qu'il va doucement tenter d'oublier par l'alcool, puis par des drogues douces et glisser doucement vers les drogues dures. Le poteau rose est découvert par la famille et les épreuves vont commencer, s'accumuler. Entre descente aux enfers, raccrochage, rechute et la vie qui avance, la douleur est un des maîtres mots de l'histoire. Mais pas seulement. C'est un film qui décortique la notion de confiance. À la base, qui mieux qu'un parent peut avoir confiance dans son enfant prometteur, ayant une vie entière à croquer devant soi? Mais quand la drogue ravage tout, transfigurant l'être aimé en un être détestable, quelqu'un d'autre sous les traits de son propre fils, quand les rechutes se succèdent, comment réinstaurer la confiance? Sur quoi s'appuyer quand rien n'avance? Quand et comment faut-il céder et abandonner son propre fils pour qu'il se sauve lui-même? Voilà autant de questions et de situations qui sont durement expérimentées par nos personnages. Petite ombre au tableau, le milieu économique et culturel brillant, limite caricatural de notre papa héros, permet d'écarter tous les problèmes matériels de cette situation. Centre de désintoxication à 40 000 dollars le mois, un dialogue généralement très ouvert et intelligent entre père et fils, une facilité de mouvement à travers tout le pays de côte est à côte ouest, un temps libre incroyable pour le papa pour gérer cette situation, etc. etc. Soit, c'est un film, cela facilite les choses de se concentrer sur les relations entre les personnages, mais est-ce que cela laisse entendre qu'une famille désargentée aurait été une matière moins solide pour un film? Je me pose la question. Ou alors, on peut prendre mon anti-américanisme primaire à rebours. L'argent ne fait pas le bonheur. Même avec une situation solide, nous découvrons comment la drogue peut détruire notre jeune garçon, tout comme sa famille, avec très peu de prise sur le sujet. Revoir ses a priori, voilà donc une autre raison de vous plonger dans ce drame tout en finesse. Douleur, confiance, espoir, une œuvre qui jongle admirablement avec ses notions. Pour en tirer un moment percutant qui ne manquera pas, j'en suis sûr, de vous tirer quelques larmes. À découvrir donc à la médiathèque Vaillant. Et vous l'avez compris, il faut également que vous vous penchiez sur tous les autres films de ce réalisateur de génie, notamment Alabama Monroe. Donc My Beautiful Boy de Felix van Groningen. Anne, à toi l'honneur, avec de la chanson française.
Oui.
Ah non.
Ah non.
Encore. C'est l'art de la chanson française.
C'est pas la chanson française.
Et oui. Encore de la chanson française. Sauf que là, c'est de la chanson française hyper belle.
Non. Encore de la chanson
non.
française.
Encore de la chanson française hyper belle. On a déjà entendu ça.
Oui,
j'ai déjà entendu ça.
Oui, parfaitement. Et d'ailleurs, tenez, écoutez ça.
N'oublie jamais personne. N'oublie rien. Disait-elle en chemin. S'il faut jeter sa vie au-delà des orties, où est la poésie? À chaque jour sa peine. Ne dis pas que tu l'aimes. À chaque nuit sa joie. blotti au creux des bras.
Alors, pour dire la vérité aujourd'hui, je voudrais vous parler d'Avalanche, l'album du groupe rouennais La Maison Tellier, paru en 2016. Et je sens bien les grincheux dire « Oh, bah, c'est même pas leur dernier album !» Certes, sauf qu'en musique, bah, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et je ne sais pas vous, mais parfois, il y a des groupes qu'on aime bien pourtant, qui sortent des albums qu'on n'écoute pas. Et pendant longtemps, on les laisse de côté. Il arrive même qu'on les oublie. Et puis, comme fait exprès, ces mêmes albums s'imposent à vous un jour ou une nuit, d'une façon ou d'une autre, comme une évidence. Oui, comme une évidence. Sur la pochette, le visage d'un homme, celui de Yannick Helmut Tellier, tout juste sorti d'une mer poudreuse rouge vif. Rien qui ne mette à l'aise vraiment, et à juste titre, car Avalanche parle de temps troublé, et de la sidération que l'on peut ressentir face à l'humanité et ce qu'elle peut avoir de dégueulasse, j'utilise ce mot volontairement, et de magnifique. Avalanche est un album de textes, de mélodies, oui, bien sûr, mais ces mélodies servent des textes d'une richesse risquée, car la Maison Tellier utilise beaucoup de mots. Pas pour ornementer, non, mais bien pour s'assurer que les propos tenus seront solidement sculptés. Et il faudra certainement écouter plusieurs fois pour s'approprier les différents morceaux, pour parvenir aussi à accepter qu'une chanson puisse parler pour soi, aussi clairement, pour se dire que cet album n'est que l'avalanche de sentiments contraires et déconcertants. Alors je reprends. Il arrive parfois que des albums s'imposent à vous comme des évidences et il devient alors très difficile d'en parler bien, de la bonne manière, puisqu'en vrai, il suffirait simplement d'écouter pour le croire. Et pour le prouver, voici Haut, Bas, Fragile.
Laissez-moi loin des causes perdues, des compteurs qui s'affolent, on apprend à écraser notre prochain dès l'école. On observe nos petits comme des bêtes en cage. Dans le doute, on se méfie. Ils ont peut-être la rage. Laissez-moi dans l'état où vous m'avez trouvé. Laissez-moi me vautrer dans la gadoue. Laissez comme un porc dans sa bauge. Ignorant des couteaux, laissez-moi quelques secondes savourer l'image de mes os bouillant dans une marmite pour un festin de choix, ce qui est même ma musique.
Donc c'était un extrait de Haut, Bas, Fragile de l'album Avalanche de la Maison Tellier. On vous retrouve pour la nouvelle année.
Bah oui.
En janvier prochain.
Et d'ici là, passez de bonnes fêtes, tant qu'à faire.
Oui, nos meilleurs vœux.
Oui.
Et puis
c'est beau l'hiver.
Allez, c'est beau l'hiver. À la prochaine.
Au mois prochain.
Salut.
Ciao. Savoir qu'on finit toujours seul. Pas besoin d'études. Laissez-moi jouer sur le piano de quelques vieilles grand-mères. Pas sûr que ça lui tiendra chaud quand elle sera 6 pieds sous terre. Et gardez-moi vos enfants tristes, vos petits crèves la faim qui n'en finit.